Les nouvelles du monde, anthologie des nouvelles, les ours grizzlies de Thomas Mayne Reid. Les ours grizzlies. Je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée avec des ours grizzlies. Je voyageais alors en compagnie de gens de mœurs bizarres, des chasseurs de chevelures, dans les montagnes, près de Santa Fe, où nous avions été ensevelis au moment où nous y pensions le moins, dans les tourbillons d'une neige épaisse qui nous empêchait de continuer notre chemin et de quitter l'endroit où nous nous trouvions alors. Le canyon, vallée profonde dans laquelle nous avions établi notre camp, était difficile à franchir en toute saison. Et dans ce moment surtout, le sentier, couvert d'une épaisse couche de neige, trop molle pour supporter notre poids, était devenu impraticable. Lorsque le jour parut, nous nous trouvâmes complètement enterrés. La petite plateforme sur laquelle nous étions campés, et qui pouvait avoir deux ou trois arpents d'étendue, exposée comme elle l'était au vent qui la balayait sans cesse, n'avait pas jusqu'alors été encombrée par la neige. Sa surface était couverte de quelques pins épars, malvenus et totalement dépouillés de feuilles. Il y avait environ de 50 à 60 pieds d'arbres en tout. C'était avec ce bois que nous entretenions nos feux. Mais à quoi nous servait le feu, puisque nous n'avions pas de viande à faire cuire? Depuis 3 jours, nous étions sans vivre, entendez-vous? Mais cependant, nous ne trouvions pas tout à fait sans nourriture. Les hommes avaient découpé les fourreaux de cuir de leurs fusils et les doublures de peau de chat de leurs poches à balles. Et on en voyait qui mangeaient pour dernière ressource. Je me trompe pourtant, il en restait encore une. On en voyait, dis-je, qui décousaient la semelle de leurs mocassins avant de s'en rassasier. L'horizon s'éclaircit un peu par là-bas. Le trappeur garé, qui s'était levé de sa place et se tenait tourné du côté de l'est, venait de prononcer ces paroles. En un mot, nous fûmes tous sur pied, promenant d'avides regards dans la direction indiquée. C'était vrai. On apercevait une éclaircie dans le ciel de plomb qui nous assombrissait depuis si longtemps. Une longue bande jaunâtre qui s'élargit pendant que nous la considérions scindait l'horizon en deux. La neige devenait moins épaisse et ses flocons plus légers. En moins de 2 heures, elle avait entièrement cessé de tomber. Nous partîmes bientôt au nombre de 6, armés de nos carabines, dans le but d'aller explorer le bas de la vallée. Le désespoir et la faim paralysaient nos forces. Et l'un après l'autre, nous abandonnâmes l'entreprise pour retourner au camp. Nous étions accroupis autour de nos feux, gardant tous un sombre silence. Garé continuait à marcher de long en large. Tantôt il contemplait le ciel, tantôt il s'agenouillait et passait la main sur la surface de la neige. Enfin il s'approcha du feu et nous dit avec ce ton de voix lent, traînant et nasillard particulier aux Yankees, « Je crois qu'il va geler. »« Eh bien, supposons qu'il gèle, » demanda un de ses compagnons, sans se soucier qu'on répondit à sa question. « S'il gèle, » répéta le trappeur, « nous serons hors d'ici avant le lever du soleil. Nous marcherons sur un sentier dur et bien battu. » Tout d'un coup, un craquement se fit entendre au-dessus de nos têtes. On aurait dit le bruit que fait un arbre mort en se fendant. Un être de dimension énorme, un animal, s'était précipité et tombé en roulant comme un tourbillon du haut d'une galerie taillée à mi-côte dans le rocher. Un instant après, il touchait à terre, la tête en avant, avec un fracas terrible. Et bondissant à plusieurs pieds de hauteur, il retombait d'aplomb sur ses quatre pattes. Un hurrah involontaire fut poussé à l'instant par les chasseurs, qui tous, du premier coup d'œil, avaient reconnu le carné rossimérone, ou bouquetin à grosses cornes. Il avait franchi le précipice en deux bonds.
C'est magnifique.
Tombant chaque fois sur ses énormes cornes, dont la forme était celle de croissants dentelés. Pendant un instant, les chasseurs et le gibier parurent également surpris de se trouver en présence. Ils restèrent à se regarder en silence. Mais aussitôt les premiers coururent à leurs carabines. Et l'animal, revenu de sa surprise, rejeta sa tête et ses cornes sur ses épaules et s'élança sur la plateforme. En 12 ou 15 bonds, il était arrivé sur la bordure du terrain couvert de neige, et il s'enfonça dans ses molles profondeurs. En même temps, plusieurs coups de feu retentirent, et on put apercevoir derrière lui de longues traces de sang. Il allait toujours néanmoins, sautant et bondissant, au milieu de la neige, dans laquelle il disparaissait souvent tout entier. Nous nous élançâmes sur ses traces avec une ardeur pareille à celle de loups affamés. Les nombreuses taches qui rougissaient le sentier nous prouvaient que l'animal perdait tout son sang. Et en effet, à 50 pas plus loin, nous le trouvâmes expirant. Un cri de joie fit connaître à nos compagnons l'heureux succès de notre chasse. Nous commencions déjà à traîner notre proie vers le campement lorsque les clameurs partant de la plateforme vinrent frapper nos oreilles. C'était un mélange confus de voix d'hommes, de cris de femmes, entremêlés d'imprécations et d'exclamations de terreur. Nous nous précipitâmes vers l'entrée du sentier qui conduisait à notre lieu de halte, et là, nos yeux furent témoins d'une scène bien faite pour frapper d'épouvante le cœur du plus courageux. Les chasseurs, les Indiens, les femmes couraient çà et là comme des gens atteints de folie, poussant des hurlements horribles, impossibles à expliquer, se montrant l'un à l'autre du geste la cime des rochers. Nos regards se portèrent dans cette direction. Une rangée de créatures affreuses se tenaient au bord du précipice. Nous les reconnûmes aussitôt. C'étaient les monstres les plus redoutés de la montagne. C'étaient les ours grizzlies. Il y en avait 5. 5 en vue, sans compter ceux qui pouvaient se trouver attardés. 5 ours. C'était plus qu'il n'en fallait pour nous exterminer tous. Parqués dans un étroit espace et affaiblis par la faim, comme nous l'étions. Ils étaient arrivés là à la poursuite du bouquetin, et on pouvait deviner à la lueur sinistre qui s'échappait de leurs yeux que la faim et les rages de se voir privés de leur proie les pousseraient à quelques extrémités. Deux d'entre eux étaient déjà parvenus en rampant jusqu'au bord de l'escarpement, en reniflant et en sondant le sol avec leurs pattes, comme s'ils cherchaient un endroit favorable pour descendre. Les trois autres quadrupèdes s'assirent sur leurs pattes de derrière et se mirent à faire manœuvrer leur train de devant d'une façon extraordinaire, en exécutant la pantomime la plus bizarre. On aurait dit des hommes recouverts de peaux de bête. Nous n'étions pas dans une situation d'esprit qui nous permît de prendre goût à ce divertissement. Chacun se hâta d'aller prendre ses armes. Et ceux qui avaient fait feu les rechargeaient au plus vite. « Arrêtez sur votre vie, ne tirez pas !» s'écria Garry, saisissant le canon du fusil de l'un de ses chasseurs. La vie venait trop tard. Une douzaine de balles sifflaient déjà dans la direction des ours. L'effet de la fusillade fut celui qu'attendait le trappeur. Les ours, rendus furieux par les balles qui ne leur avaient fait pas plus de mal que des piqûres d'épingles, retombèrent sur leurs quatre pattes et, poussant des grognements de colère, se mirent en devoir de descendre. La confusion fut alors à son comble. Quelques hommes, moins braves que leurs camarades, coururent se blottir dans la neige, tandis que d'autres grimpaient le long des pins qui se trouvaient à leur portée. « Faites cacher les femmes !» s'écria Garry. « Allons donc, maudit fainéant d'Espagnol, si vous ne voulez pas combattre, veillez aux femmes, tous tant que vous êtes. Faites-les cacher dans la neige. Tas de lâches, poids, vers la terre, pourceaux. Sauvez les femmes, docteur, dis-je à l'Allemand, qui, selon moi, nous était d'un secours inutile pendant la bataille. Et sans se faire prier, celui-ci, aidé de quelques Mexicains, entraînait les femmes effrayées vers l'endroit où nous avions laissé notre gibier. La plupart d'entre nous savaient que, dans les circonstances actuelles, se cacher était pire que combattre. Les ours rendus sagaces par leur férocité nous auraient déterrés l'un après l'autre et massacrés en détail. Il fallait donc les attendre et leur livrer bataille. Tel était le mot d'ordre, et nous étions résolus à ne pas nous départir de cette résolution. Nous étions une douzaine de combattants en tout, y compris les Delawares et les Shawnees, Garry et les autres trappeurs. Nous ouvrîmes le feu sur les ours qui couraient le long des arêtes tortueuses du canyon pour arriver jusqu'à nous. Par malheur, nos carabines n'étaient pas en état, nos doigts étaient roides de froid et nos nerfs affaiblis par la faim. Nos balles faisaient saigner ces hideuses brutes. Mais aucune des blessures n'était mortelle. Nos coups n'avaient d'autre résultat que celui d'exciter leur rage. Quel moment terrible fut celui où nous nous aperçûmes que nos dernières munitions étaient épuisées sans que nous eussions eu la chance d'abattre un seul de nos ennemis. Nous jetâmes de côté nos carabines, et saisissant nos haches et nos couteaux de chasse, nous attendîmes, de pied ferme, ces farouches adversaires. Nous nous étions avancés tous contre le rocher afin de porter les premiers coups aux ours grizzlies, qui ordinairement descendent à reculons. Nous fûmes encore déçus dans cette espérance. Arrivés à une galerie située à environ 10 pieds au-dessus de la plateforme, celui qui se trouvait en tête, s'apercevant de la position que nous occupions, hésita tout à coup. On aurait dit qu'il n'osait plus descendre. L'instant d'après, ses compagnons, rendus furieux par leurs blessures, vinrent s'abattre sur la même galerie. Et soudain, tous les cinq se précipitèrent au milieu de nous. Alors, commença une lutte désespérée que je ne saurais décrire. Les clameurs des coureurs des bois, les cris sauvages de nos alliés indiens, les rauques hurlements des ours, le bruit des tomahawks résonnant sur les crânes comme sur des cailloux, le cliquetis inexprimable des couteaux de chasse, et puis de temps à autre un gémissement humain lorsqu'une griffe crochue s'enfonçait dans les muscles de l'un de nous. C'était une scène d'horreur qu'aucune plume ne saurait décrire avec exactitude. Partout sur la plateforme, les hommes et les ours tombaient ensemble, se débattant dans cette lutte suprême d'où dépendait la vie ou la mort, à travers les arbres et dans les profondeurs de la neige, qu'ils teignaient ensemble de leur sang. À droite, deux ou trois chasseurs n'avaient qu'un ennemi à combattre. À gauche, un d'entre nous, plus brave, se défendait tout seul. Plusieurs étaient déjà étendus par terre, et à chaque instant les ours, victorieux, diminuaient le nombre des nôtres. J'avais été renversé dès le commencement de l'action. Lorsqu'il me fut possible de me remettre sur mes jambes, je vis l'animal qui m'avait attaqué étreindre dans ses bras le corps d'un homme qui gisait à terre. C'était Gray. Je me penchai sur l'ours et je le saisis par l'échine afin de me soutenir, car j'étais tout étourdi de faiblesse. Nous en étions tous réduits là. Je frappai de toute ma force et je lui enfonçai mon couteau dans les côtes. L'animal féroce lâcha aussitôt le français et se retourna contre moi. Je voulus éviter son étreinte et tout en marchant à reculons, je me défendis avec mon couteau. Tout à coup, j'arrivai près d'un trou rempli de neige et je tombai sur le dos. Au même instant, je sentis sur moi le corps pesant du grizzly et le contact de ses griffes qui s'enfonçaient profondément dans mon épaule. La laine fétide du monstre me suffoquait, et tandis que je frappais au hasard de mon bras droit demeuré libre, nous roulâmes à plusieurs reprises, l'un sur l'autre. J'étais aveuglé par la neige. Mes forces m'abandonnaient. Je perdais tout mon sang. Je poussai enfin un cri de désespoir, mais ma voix était si faible qu'il eût été impossible de l'entendre à 10 pas de moi. Un sifflement étrange parvint à mes oreilles. Une lueur brillante me passa devant les yeux. Un objet incandescent s'approcha de mon visage au point de me roussir la peau. Je sentis une odeur de poils brûlés. J'entendais des voix qui se mêlaient au rugissement de mon adversaire. Tout à coup, les griffes se retirèrent de ma chair. Le poids qui oppressait ma poitrine disparut. J'étais seul, tout à fait seul. Je me remis sur mes pieds et me frottai les yeux pour en faire disparaître la neige qui m'aveuglait. Lorsque j'eus recouvré la vue, j'eus beau regarder, je ne vis plus rien. J'étais plongé dans un trou profond, creusé par la lutte, mais tout était calme devant moi. La neige qui m'entourait était rougie par le sang. Mais qu'était devenu mon terrible adversaire? Qui m'avait délivré de son étreinte mortelle? Je parvins sur la plateforme, en chancelant. Là, une autre scène vint frapper mes regards. Un homme d'aspect bizarre et fantastique courait de tous côtés, tenant en main un tison gigantesque, la cime d'un pin tout entier enflammé comme une torche, qu'il brandissait dans l'air. Il poursuivait un ours, et l'animal, hurlant de rage et de douleur, faisait tous ses efforts pour atteindre les rochers. Deux autres de ces monstres les avaient déjà gravis à moitié, bien qu'avec peine, car le sang coulait en abondance de leurs flancs criblés de blessures. L'animal poursuivi atteignit les hauteurs, poussé par la flamme qui lui rôtissait les côtes. Il fut bientôt hors de la portée de son ennemi, qui aussitôt se tourna vers un quatrième, aux prises avec deux ou trois de nos compagnons. Celui-ci fut encore mis en fuite et alla rejoindre ses camarades sur les rochers. Le chasseur fantastique cherchait le cinquième, mais il avait disparu. Le sol était jonché d'hommes blessés et presque sans mouvement. Quant à l'ours, on n'en voyait point de traces. Il avait dû s'échapper sous la neige. J'en étais encore à me demander quel était l'homme au tison et d'où il avait pu venir. J'ai déjà dit que c'était un individu d'un aspect extraordinaire, et je n'ai rien exagéré. Il ne ressemblait à aucun des chasseurs de notre caravane. Du moins, je ne le connaissais pas. Il avait la tête chauve, ou plutôt entièrement rasée. On ne découvrait aucun cheveu, ni sur le crâne, ni sur les tempes. Son front dénudé reluisait à la lueur du feu comme de l'ivoire poli. Mon esprit flottait encore dans une incertitude sans pareille, lorsqu'un de nos compagnons, Garret, encore étendu sur la plateforme où l'avait couché un de ses ours, se leva tout à coup sur ses jambes en s'écriant « Bravo, docteur! Mes amis, trois hurrahs pour le docteur !» À mon grand étonnement, je reconnus alors les traits de notre camarade qui, par l'absence de sa brune chevelure, avait opéré en lui une métamorphose si complète que jamais je n'aurais pu croire qu'une perruque pût changer à ce point la physionomie d'un chrétien. « Voilà votre toupet, docteur !» s'écria Garret, qui accourait porteur du gazon. « De par le tonnerre, vous nous avez tous sauvés !» Et le chasseur étreignit l'Allemand dans ses bras nerveux. Partout autour de nous, on ne voyait que des blessés, qui, rampant sur la neige, se réunirent peu à peu. Mais où pouvait être le cinquième ours, puisqu'on n'en avait vu que quatre s'enfuir à travers les rochers ? « Le voilà !» fut une voix. Une légère ondulation sous la croûte de la neige nous prouva que quelque animal cherchait à se frayer un passage en dessous. Plusieurs d'entre nous prirent leurs carabines pour se mettre à sa poursuite. Le docteur s'arma d'un nouveau tison. Et bien avant que nous eussions eu le temps de faire nos préparatifs, un cri formidable vint encore faire figer notre sang dans nos veines. Aussitôt, les Indiens, saisissant leurs tomahawks, s'élancèrent en bondissant vers l'ouverture du sentier. Ils savaient bien ce que voulait dire ce « whoop » inattendu. C'était le cri de mort d'un guerrier de leur tribu. Ils se glissèrent dans le sentier que nous avions frayé le matin, suivis de ceux qui avaient pu recharger leurs armes. Du sommet de la plateforme, nous les suivions d'un œil inquiet. Mais avant qu'ils ne fussent arrivés au lieu du combat, la voix s'était éteinte. Il nous parut évident que la lutte avait cessé. Nous attendions dans un morne silence. Le mouvement de la neige nous indiquait la rapidité de la course des peaux rouges. Ils arrivèrent enfin sur le champ de bataille. Mais une fois parvenus là, comme tout rentra dans le calme le plus profond, nous prévînmes qu'une catastrophe était arrivée. Le sort de l'Indien nous fut bientôt annoncé par une exclamation sauvage, pleine de tristesse, qui fait retentir l'écho du canon entier de ses accents lugubres. Elle annonçait la mort d'un guerrier tawano. Ils avaient trouvé leur brave camarade expirant au moment où il avait planté son couteau dans le cœur de son terrible adversaire. Ce souper de viande d'ours nous coûtait cher, mais la mort de notre camarade sauvait la vie des autres. C'était un sacrifice providentiel. Nous gardâmes le bouquetin pour le repas du lendemain. Le jour suivant, nous mangerions la racine. Et après cela, quoi ? Un homme, peut-être ? Heureusement, nous ne fûmes pas réduits à cette extrémité. La gelée était revenue, et la surface de la neige, détrempée d'abord par le soleil et la pluie, se durcit bientôt et put supporter notre poids. Il nous fut enfin possible de sortir de ce dangereux passage et de gagner tranquillement les régions plus tempérées de la plaine.